Les Cascodeurs Podcast, épisode 304, Dark Punk. Enregistré le 15 décembre 2023.
Et faites-nous une petite faveur, remplissez le sondage dont on parle au début de cet épisode sur lescascodeurs.com/sondage et ça va vous rediriger vers un formulaire Google. Bonjour et bienvenue aux Cascodeurs, c'est le dernier épisode de l'année ou alors vraiment on sera vraiment en feu mais c'est probablement le dernier épisode de l'année. Nous sommes le 31 décembre, non, nous sommes le 15 décembre et je suis avec... respectivement Katia et Arnaud pour cet épisode nouvelle.
Salut.
Salut tout le monde.
Oh là là, pas la pêche Katia, genre un petit
ouais,
salut.
Ouais, non,
juste.
Ça va, si, salut. Hello tout le monde, oui. je suis concentré. Parce qu'il y a, c'est son croustillant, les news. Voilà, j'en ai glissé une dernière à la dernière minute.
J'ai vu. Alors déjà, est-ce que tu veux nous faire expliquer un peu avant qu'on commence les langages là
le formulaire qu'on voulait faire. Le formulaire. Ouais. Ah ouais. Oui, parce que c'est le premier. Donc, on est à la fin de l'année et souvent qui dit fin d'année dit aussi bonne résolution pour l'année prochaine et ouais. 2024. Après, personnellement, j'ai fait les bonnes résolutions à la rentrée à chaque fois en septembre plutôt qu'en janvier. Mais là, il y a un changement d'année, une nouvelle dynamique, etc. Et du coup, on s'est dit, et si on demandait du feedback aux personnes qui écoutent les Cascodeurs pour voir s'ils ont des idées, si elles veulent qu'on adresse certains sujets, si elles veulent nous proposer je connaissais cette personne qui est passionnante, est-ce que vous pouvez la contacter et l'interviewer ou n'importe quoi. Donc on a ouvert un formulaire où peut-être est-ce que tu as une idée super géniale et tu te dis mais en fait moi j'ai une idée révolutionnaire pour les Cascodeurs et j'aimerais leur proposer. Donc, c'est pour ça qu'on a fait un formulaire Google Form. Dedans, en deux minutes, tu peux répondre, tu peux rajouter des suggestions. Et puis aussi, tu vas le lire et tu mets tes commentaires là-dedans. Voilà.
Ça prend vraiment deux minutes, sauf si vous voulez me faire un roman, parce que c'est des questions, des réponses ouvertes plutôt. Mais essayez d'être plutôt succinct avec les listes des mots-clés, ça sera plus facile pour l'intelligence artificielle derrière ces cerveaux organiques qui vont devoir traiter les milliers de réponses, j'espère, que vous allez nous envoyer. Voilà. Ouais, ça nous aidera, parce que nous, on a des idées, ça nous aidera juste à un peu les affiner ou les changer, voir un peu ce qui vous intéresserait, voilà, dans la limite de notre énergie disponible, on en discutait un petit peu avant. Allez, on va passer au langage, du coup. Alors, on va commencer avec du Java, d'ailleurs, la JVM, avec la JEP 461, qui discute en mode, qui arrive dans la Java 22, c'est la notion de gatherer pour les streams. Donc, les streams, ça vous permet de traiter de manière tardive les opérations au lieu de faire ça de manière impérative. Il y a une approche un peu plus déclarative avec c'est pas vraiment des callbacks mais avec un peu l'équivalent des callbacks. Et du coup là il y a un article de Paul King de l'équipe Groovy qui montre ce qu'on peut déjà faire avec Groovy depuis quelques années et qui explique du coup l'approche des gatherers. Et du coup moi j'ai regardé un peu ce que ça veut dire gatherer et en fait c'est une opération. En fait les streams il y a le collecteur qui est en vrai l'opération de fin qui va aller transformer ce que vous voulez en résultat par exemple en liste ou choses comme ça. Et le gatherer c'est une opération intermédiaire qui permet de transformer les choses. Et ça il y en a déjà flat map ou ce genre de choses, si je me trompe pas, je vais me faire défoncer par par les fonctionnels, parce que j'ai dû me tromper là, mais voilà, il y a un certain nombre d'opérations.
Les puristes, ils sont en train de souffrir là. Ouais. J'entends un cri.
Insulter un monoïde comme ça, c'est pas possible.
Ouais. J'entends un cri là sur Paris. Ah!
Non, je sais plus, parce qu'ils n'existaient pas FlatMap exactement comme opération en Java, mais bon, bref, c'est pas grave. Et Gatherer, du coup, c'est en fait il y a des versions qui existent déjà, mais qui sont limitées à ce que le JDK vous propose. Donc Gatherer, c'est littéralement vous pouvez passer une implémentation à vous. Et donc ça ouvre les possibilités. Et donc le Gatherer, il a un certain nombre d'opérations, mais la plus importante, c'est celle qui s'appelle Integrate, qui dit voilà le prochain élément, voilà l'état que tu peux passer d'un appel de Gatherer à un autre. Et puis, tu peux même rajouter des éléments intermédiaires dans la chaîne si tu veux. Et du coup, tu peux combiner ces résultats intermédiaires. Ça peut être une somme, te dire que tu fais une liste de trois éléments avant de passer à une autre liste de trois autres éléments, etc. Alors que le tout était à plat. Tu peux te faire une fenêtre glissante, genre 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5 et construire ça, voilà. Donc, il y a pas mal de petits cas d'utilisation intéressants et je suis sûr qu'il y en aura beaucoup plus une fois qu'on aura accès à cette API et qu'on se lancera. Voilà.
Intéressant.
Ouais. Moi, j'avoue que je suis pas tombé dans les streams vraiment, donc j'ai moins de...
Ça dépend de quoi. Moi, ça m'arrive souvent de les utiliser maintenant quand effectivement je processe du code plutôt que de faire. Et ce qui est pas toujours une bonne chose, hein, parce qu'en termes de lisibilité, des fois une bonne boucle for fait aussi bien le job qu'un while qu'une stream. Mais c'est vrai que ça m'arrive quand même de plus en plus à faire des streams. Et là, bon, c'est vrai que de pouvoir customiser à la fois les mappers, les réductions, etc. Et j'imagine ouais, qu'il doit y avoir des use cases. J'ai pas eu trop le besoin pour ça, mais je pense que ça peut être assez utile de faire en une step, parce que des fois tu faisais peut-être en plusieurs, donc. Peut-être aussi un peu de perf là-dessus à gagner, à voir.
Et l'autre chose, c'est que donc dans la version de base, ça ne peut pas se paralléliser, donc à traiter la stream avec des éléments concurrents. Par contre, il y a une méthode spécifique que vous pouvez, alors je ne me rappelle plus d'ailleurs comment elle s'appelle, mais c'est pas collector, mais c'est en gros faire l'après, c'est un peu le reduce, quoi, faire l'opération de reduce. Donc vous pouvez du coup rendre parallélisable l'exécution des gazeurs. Voilà, enfin, s'il s'y prête, ce qui n'est pas forcément possible. Ok, allez, on va parler de Joe Duffy, qui est le CEO de Pulumi, et qui avait travaillé sur Microsoft sur un projet d'un autre système d'exploitation, qui s'appelait Midori, un système d'exploitation de recherche. Et le design de Midori, c'était je sais plus d'ailleurs si c'était beaucoup plus sûr ou des choses comme ça. En tout cas, l'article parle du design des exceptions, de remonter les erreurs dans le code. Et alors, l'article, il est pas petit, mais ça compare effectivement l'approche C avec des codes d'erreur 0, moins 1, moins 2, etc. Et comment il y a des côtés positifs, il y a des côtés un peu négatifs. L'approche exception avec les checked exceptions et les non-checked exceptions. Et donc, c'est marrant parce que lui, il n'a pas vraiment la vue que les javaïstes ont où les checked exceptions, c'était la plaie parce que c'était propagé dans les API tout le temps et les gens, en fait, ils voulaient juste pas gérer le try, catch, surtout que maintenant, il y a des approches un peu moins verbeuses, mais à l'époque, il fallait explicitement toutes les exceptions. Du coup, c'est vrai qu'on s'en était arrivé à un modèle où, en tout cas, dans tous les frameworks, c'est des exceptions unchecked, donc des exceptions qui dérivent de runtime exception.
Ouais.
Et ça, il dit, ça, c'est la plaie parce qu'en fait, vous savez pas, vous gérez l'exception, pas du tout à l'endroit où elle est effectuée possiblement, elle arrive dans un univers parallèle et d'un coup, pouf, vous avez à gérer ça. Donc pour lui, c'est pas vraiment un bon design. Donc l'article est long et intéressant. Alors, je suis pas allé au bout pour être honnête, mais il explique aussi que lui il différencie des erreurs qui sont genre, enfin littéralement des. Je crois que la JVM elle différencie d'ailleurs des erreurs du genre bah vous pouvez pas continuer le programme parce que on n'est plus dans un état, c'est un bug en fait. Du coup il y a plus d'état de récupérable. Du coup là c'est limite ça va arrêter le process imminemment sous peu. Et l'autre qui sont des erreurs de type métier, où ben justement il y a peut-être des choses à récupérer, des réactions à faire sur le moment d'erreur. Donc il y a tout un article. Donc si vous êtes un peu dans le mode à réfléchir pour votre équipe sur la notion d'erreur, d'exception, comment on fait ou pas, c'est un bon article qui est pas lié à Java spécifiquement, mais qui parle de vraiment comment ces problèmes-là sont abordés dans différents langages, voire dans les systèmes d'exploitation. Sinon, je ne sais pas si un de vous veut prendre, là, il y a, donc on en avait parlé, il y a plus de Nashorn, qui était un moteur d'exécution JavaScript un peu vieux, dans le JDK.
C'est ça, il était parti, il a été retiré, hein, c'est ça ?
Ouais, ouais, il a été retiré.
Sorti, ouais.
Et ouais, vas-y.
Donc, tu as le projet Javette qui permet de reprendre un peu là où s'était arrêté Nashorn, d'intégrer donc le moteur de JavaScript V8 dans la JVM, donc faire tourner du code JavaScript, Node.js, etc. dedans. C'est un projet open source, hein, si je me souviens bien, je ne me rappelle plus, ça fait longtemps que j'ai lu l'article. C'est un projet open source, et donc ça permet de faire ce qu'il y avait avant, d'intégrer plus facilement la partie du code front, du code JS, etc. dans la JVM. Par contre, je disais quoi ? Oui, il n'y a pas de... c'est sur la partie x86, ouais. Donc c'est plus limité. Il y a sur la partie exécution ARM sous Windows, c'est pas possible, par exemple. Donc il y a encore des limitations en termes de runtime. Le moteur, il n'est pas aussi souple que le... Que ce peut... Enfin, il n'est pas encore adapté à toutes les plateformes qu'on pouvait, ouais. qu'on pouvait avoir à gérer.
Et après, pour ceux qui ont du x86 non 64, c'est pareil, il y a des limitations. Ça marche que, en gros, sous Android.
Ouais.
Pas très pratique de faire ces tests.
C'est ça.
En fait, c'est Javate, parce que c'est Java et V8. Donc, ça se prend Javate.
Ouais. C'est bien Java. Voilà.
En tout cas, c'est vrai que c'est les deux meilleurs modèles. Enfin, genre la JVM qui sait faire tourner évidemment Java le mieux. Et puis V8 qui est un des, si ce n'est le meilleur moteur JavaScript aujourd'hui. Et du coup, là, on utilise les deux. Alors, effectivement, il y a le coup de transition d'un moteur à un autre, parce que c'est littéralement deux process séparés. Donc, Nashorn, c'était, j'imagine, en Java de manière native. Donc, voilà. Mais voilà, c'est ce qu'il y a de mieux aujourd'hui si vous avez un usage assez fort de mélanger du code JavaScript et du code Java. Bon, après, il y a les approches GraalVM, etc., qui sont d'autres approches. Allez, on va passer aux bibliothèques, aussi appelées librairies. Alors, c'est pas vraiment sur la librairie, mais apparemment, donc, alors, juste, il y a Broadcom qui a finalement eu le feu vert pour finaliser son rachat de VMware. Mm-hmm. Donc, du coup, ça se fait toujours en phase. Il y a des pays où c'est plus rapide que sur d'autres. Donc, typiquement, aux États-Unis, c'est plus rapide qu'en Europe. Et donc là, il y a déjà eu des annonces de licenciement, des gens qui avaient eu leur lettre de renouvellement de job adapté et d'autres qui l'ont pas eu, quoi. Donc là, ça y est, c'est effectif dans certains pays, puis ça va continuer à s'activer au fur et à mesure des régulations. Et du coup, il y a eu au moins un tweet un peu triste de quelqu'un de l'équipe Spring. Alors, je sais pas si c'est Spring ou les Spring Data ou d'autres équipes un peu parallèles à Spring, mais bon, il se passe quelque chose. Après, il n'y a pas non plus d'infos, de gens qui ont blogué des détails, etc. Mais bon, c'est pas une acquisition à la bisounours. Mais bon, ça, on le savait. Enfin, c'était un petit peu anticipé.
Est-ce que ça arrive souvent, des acquisitions à la bisounours, où on garde tout?
Ça peut être la lune de miel initiale, mais bon, là,
ouais, au moins, c'est ce que j'allais dire, en fait, que quand, ça est souvent, un rachat, ça ramène beaucoup de changements, beaucoup d'incertitudes, beaucoup des gens qui vont venir te dire « mais c'est une super opportunité ». Et en fait, derrière, t'es en mode « bon, l'opportunité, je la vois pas trop, en fait. Est-ce qu'on n'est pas en train de se faire arnaquer ?» Et du coup, oui, donc c'est toujours compliqué et il faut laisser... un peu le temps pour voir où ça en devient. Ouais. En tout cas, ouais, pour tous les gens qui travaillent chez Spring et VMware, et moi j'envoie tout mon soutien pour que ça se passe au mieux pour eux, qui font un travail formidable, en fait.
Absolument. Des cœurs.
Oui, beaucoup de cœurs.
Voilà. Sinon, alors la transition n'a aucun rapport, mais
donc du banking.
Voilà, Marc Vrobel a une. Alors Marc Vrobel, c'est la personne qui nous aide un peu derrière les coulisses dans les cascodeurs. Notamment, il a écrit le bot, il avait rénové le site web, il corrige les fautes d'orthographe nombreuses et variées que l'on met quand on écrit les notes le plus rapidement possible pour préparer les épisodes. Et du coup, Marc, il travaille donc visiblement dans la banque, et en tout cas, il a une bibliothèque qui s'appelle JBanking, et donc il a la version 4.2. Et JBanking, déjà, il y a le support de Java 21, et JBanking, c'est une bibliothèque pour manipuler les structures typiques que vous avez dans les banques, et en particulier européennes, IBAN, BIC, les monnaies, les types de monnaies, les SEPA, ce genre de choses. Donc ça permet d'éviter de réinventer la roue et de partager ce truc-là qui est pas non plus un secret de propriété intellectuelle absolument massif pour une banque, j'imagine. Donc si vous êtes dans les banques, vous avez besoin, vous en avez un peu marre de gérer votre bibliothèque interne comme ça, peut-être que vous voulez partager cet effort-là sur cette bibliothèque open source. Enfin, je dis open source, mais j'espère, mais je connaissant Marc, je pense que oui. Rendez-vous sur GitHub, vérifie quand même, tac, tac, tac.
Il faut envoyer l'IBAN de chacun et le BIC pour l'utiliser. Il faut juste le BIC et l'IBAN.
C'est open source, tous les IBAN sont acceptés, en fait.
Oui.
Ouais, c'est Apache.
C'est de l'ASL, c'est de la page.
Ouais, merci.
Oui.
Voilà, ensuite... Hibernate Search 7, est-ce que tu veux en parler vu que tu vas...
Et 7.1, il y a les deux.
Elle fait vibrer la communauté Java qui se dit, je ne veux pas faire du Python, je veux faire du Java et AI. On veut, on résiste, on ne veut pas, on refuse, on ne veut pas. Et du coup, Hibernate Search est là pour se dire... Ah là là, est-ce qu'on va pas intégrer des vecteurs aussi en Java? Et donc, oui, on peut faire maintenant à partir de la version 7.1 qui est en alpha. Donc, la version 7.0, déjà, il intègre un million de choses. Par exemple, Amazon OpenSearch, serverless, un expérimental. Mais du coup, il utilise déjà Lucene 9.8. Et du coup, c'est ça, la version 7.1 alpha permet de faire la recherche, le stockage d'index en vecteur et la recherche des vecteurs, la recherche vectorielle. Et ça, c'est très important parce que ça permet du coup de utiliser l'outil pour stocker des embeddings qui permet les embeddings qui sont générés par les outils de LLM, des IA, et qu'on puisse faire la recherche par la recherche KNN, donc la recherche par proximité qui est tant nécessaire et qui est justement LangChain l'utilise, quoi. Et par exemple, en parlant d'un petit projet que je connais qui s'appelle
Infinispan. Avant qu'on passe à ça.
Aïe, tu me lances et je suis.
Ouais, c'est ça. Non, mais du coup, Hibernate Search, c'est pas une base de données vectorielle, mais ça s'intègre à des bases de données vectorielles. Donc ça fait le lien entre. Comme Hibernate Search fait le lien entre la modification de vos entités ORM vers l'index full text, là, on rajoute la notion de vecteur, en fait.
C'est ça, exactement. Et par exemple, donc, Infinispan qui utilise Hibernate Search pour toute la partie recherche textuelle des données qu'on peut rajouter dans des caches. Là, on est en phase de développement pour la version 15. On a déjà intégré dans la version de développement la version de Hibernate 7.1. Hibernate Search, pardon, 7.1. Du coup, on a déjà une première implémentation de j'ai mis mes entités dans des caches dans lesquelles je rajoute des vecteurs et je suis capable de faire la recherche vectorielle. Voilà, d'accord. On a déjà la petite pierre qui a été rajoutée là-dessus et qui est disponible dans la version de développement d'Infinispan. Mais ça, c'est tiré de Lucene, Hibernate Search, et là, c'est... Infinispan qui l'intègre, donc voilà. Et là, on travaille. Moi, du coup, je suis overexcited parce que je travaille à intégrer, à faire que InfiniSpan puisse être un embedding store pour l'on-chain. Voilà.
Et juste pour revenir à la 7.0, du coup, effectivement, il y a le support d'Elasticsearch de la 8.10.8.11 et OpenSearch 2.10.2.11. Je crois que les anciennes versions sont dépréciées, mais la version d'Elasticsearch de ce moment-là était aussi dépréciée. Donc, c'est autour des 6, je crois, de mémoire. Donc, voilà, c'est juste ça suit les déprécations d'Elasticsearch. Rebasé sur Lucene 9.8, tu l'as dit, et puis le support de OpenSearch Serverless, qui est en gros... OpenSearch slash Elasticsearch, mais sans serveur, donc on paye comme des lambda au montant de volume de data qu'on stocke, au nombre de requêtes, etc. Mais il n'y a pas toutes les API, c'est pas aussi complexe que l'API du serveur full. Voilà, du coup, toutes les fonctionnalités ne sont pas forcément traduites, en fait. Voilà, et pour rester sur Hibernate, il y a ORM 6.4 qui est sorti avec le support de soft delete. Donc on peut rajouter une annotation qui va décrire une colonne en général qui va marquer la suppression, donc soit en opt-in, soit en opt-out. Et ça permet d'avoir de pas supprimer les informations, mais que pour l'exécution classique de vos requêtes, par défaut, les choses supprimées ne soient pas visibles. Donc ça rajoute une clause where qui va bien en fait sur chacune de vos opérations, notamment les requêtes. Donc ça, c'est pas mal. Le support pour les opérations vectorielles dans SQL, notamment PostgreSQL, c'est les opérations vectorielles de PostgreSQL qui sont exposées. Donc ça, si vous voulez faire des petites opérations justement de pré-machine learning direct dans votre base de données Postgres, ça va être c'est possible. Et puis ils ont rajouté des événements spécifiques JFR. L'autocomplétion a écrit JFrog, mais en fait c'est JFR, le Java Flight Recorder. Et donc là, Java Flight Recorder, il expose des événements de la JVM, mais en fait n'importe quelle librairie peut envoyer des événements. Donc là, Hibernate envoie des événements spécifiques. Et JFR, c'est un coût assez minimal en termes d'envoi et de métriques un peu de haut volume. Donc voilà, ça rajoute ça, ça permettra d'aller tuner un peu plus l'utilisation d'Hibernate. Voilà, sinon il y a Quarkus et Citrus qui s'intègrent. Et Citrus, de ce que j'ai compris, je trouvais ça pas mal, c'est pour les tests d'intégration et ça supporte plein de protocoles, plein de formats de messages. Et c'est justement pour tester les entrées-sorties attendues d'un système de messages, que ce soit HTTP, Kafka, serveur de mail. Et du coup, en fait, on simule... qu'on soit côté envoyeur ou receveur avec Citrus, et du coup on se dit bah tiens, est-ce que Quarkus a bien envoyé un email, ou alors quand il reçoit un email, est-ce qu'il a bien réagi. Voilà, ça permet de faire ce genre de test d'intégration léger, parce qu'en fait là c'est du mocking en fait quelque part. Et notamment ouais, pour les applications event driven, bah c'est pas mal parce que tout est entré, tout est sorti dans ces architectures là. Et puis, juste pour info, il y a une décision au niveau de la communauté Quarkus que la version 3.7 ciblera Java 17 et plus. En fait, là, dans les, on voit Arnaud qui lève le pouce. D'ailleurs, il n'a pas mis à jour son Mac parce qu'il n'y a pas des petites bulles qui montent quand tu fais un... Ah, si, en fait, juste, ça marche une fois sur deux, ce truc-là. Bon, pour ceux qui comprennent pas ce que j'ai dit, en fait, c'est si vous êtes dans les vidéoconférences, il y a des gens qui ont des bulles un peu bizarres qui montent. Ça, c'est les gens qui sont passés à la dernière version de Mac et qui n'ont pas su comment désactiver cette fonctionnalité. Bon, bref, pour revenir à Quarkus, donc la 3.7 va cibler Java 17, parce qu'en fait, ils ont activé les métriques au niveau des builds. Qui est un opt-in, donc c'est à vous de décider, mais ce qui est utile, c'est que du coup on sait que quand vous exécutez vos builds, sur quelle version de Java vous tournez, et il y avait à peu près 8% de gens qui utilisaient Java 11, donc ils vont pouvoir rester sur la 3.6 par exemple de Quarkus, et puis la 3.7 va passer au présent, on va dire. J'ai pas de dire le futur quand même, mais au présent. Ok, alors on va passer au nuage, au cloud, comment choisir sa région cloud. Et c'est un petit article de haut niveau, mais qui est vraiment pas mal. Et c'est pas si simple que ça, parce qu'on peut se dire, oh, bah, choisis celle qui est proche de moi, parce que quoi. Bah, je sais pas. Ou alors, je prends la moins chère parce que voilà. Mais du coup, en vrai, l'équation qu'on veut optimiser, ben, c'est effectivement le coût. C'est la sécurité légale de vos données. Donc là, il faut utiliser, optimiser avec un avocat. Et puis là, les règles dans votre société, la complexité de vos régulations si vous êtes un métier régulé. Vous pouvez gérer la latence. Et donc, c'est pas tant où vous êtes vous, mais où sont vos clients. Donc ça, c'est intéressant. Ça peut être les services supportés parce que ben les nouveaux data centers n'ont pas forcément tous les services disponibles au niveau d'un cloud provider donné. Et puis, la consommation carbone de la région choisie. Par exemple, là, il montrait les cartes d'impact carbone de la consommation électrique. Et ben, la France, de son historique hydroélectrique et nucléaire est plutôt bien. La Pologne, j'ai plus 90% ou plus de charbon, donc beaucoup moins. Voilà. Et du coup, voilà. Et la question, du coup, ça lève, quelles sont vos priorités? Et voilà. Comment on résout cette équation-là? Et donc, ça, c'était un petit article qui vous liste tout ça, donc c'était pas mal.
En fait, la priorité de la plupart des boîtes, c'est l'argent quand même, non?
Non, ça peut être la latence aussi, en fait, en vrai. Enfin, moi, ce que je vois beaucoup...
Mais finalement, c'est l'argent. Parce que si t'as pas de l'argent, mais la latence, si ça impacte...
Ça dépend les métiers, tu vois. La banque, ouais. c'est genre légal d'abord. Ensuite, peut-être la latence, si c'est du high frequency trading, etc. Et l'argent, c'est parce qu'ils savent en générer beaucoup plus en gagnant en latence. Voilà.
Ouais.
Après, tout est question de... Le choix, puis après, c'est ton architecture, parce que si, de toute façon, ta latence, elle peut être compensée par un CDN en poussant tes ressources statiques au-devant ou certaines de tes fonctions, voilà, t'es pas obligé non plus d'être dans des régions spécifiques, quoi.
Oui.
Après, pour la partie green, c'est vrai que ça reste compliqué, parce que si tu veux vraiment être green, c'est pas là où c'est le moins cher, souvent. Et c'est vrai que c'est des vrais choix philosophiques. Tu veux quoi? Sauver la planète et payer plus cher ou optimiser tes coûts? Chaque entreprise va avoir ses propres choix. Mais c'est vrai que c'est pas simple. Malheureusement, on peut pas tout avoir comme d'habitude. Faut choisir entre plusieurs axes et qui sont généralement complètement orthogonaux. Tu peux pas aller tout couvrir. Donc.
Et c'est marrant parce qu'on avait tous les ans, en fait, on organise le rendez-vous des ingénieurs Red Hat en France. Et c'est, ça va du kernel au développeur d'interface utilisateur à droite à gauche. Et du coup, là, il y avait quelques présentations au niveau de l'optimisation de la consommation. Donc, que ça soit Kepler, que ça soit une extension Quarkus qui essaie de mesurer la consommation via, je crois que ça s'appelle Rapper, là, qui mesure ça sous Linux. Il y a un équivalent sous Mac, Power quelque chose. Et en fait, ils expliquaient la difficulté déjà de ces mesures-là, déjà de le corréler à un process donné versus tout le reste de la machine. Et on parlait des optimisations. Est-ce que tu bourrines sur un serveur et tu laisses les autres éteints? Est-ce que tu répartis la charge pour que ça consomme moins de refroidissement? Voilà, tout ça, c'est pas simplissime. Et ils expliquaient, parce qu'on pourrait dire, ah bah, on va s'appuyer justement sur la consommation régionale. Et ils disaient, ah ouais, mais la consommation régionale, c'est assez grosse maille au final. Peut-être que le data center, il a acheté de la consommation énergétique chez un fournisseur qui est en fait pas local et qui a une consommation plus ou moins grosse en termes de CO2. Ça dépend de la journée. Donc, par exemple, il y a des gens qui font des workloads, je sais plus comment ils appelaient ça, mais c'est des workloads follow the sun pour consommer, enfin, ne s'alimenter que sur du photovoltaïque. Donc là, on parle juste de la consommation effective pour faire tourner les CPU et les GPU. Après, il y a évidemment l'ordinateur qui doit être construit, etc., etc. Bref, on est vraiment au début encore et on est encore à la phase, OK, il faut qu'on s'améliore sur la mesure avant d'aller dans les choses comme ça. Et il parlait, certains qui ont des contacts chez des gros cloud providers parlaient qu'eux, ils ont des mesures, plusieurs mesures par carte mère, en fait, avec des endroits spécifiques, parce que sinon, c'était trop grosse granularité pour être efficace, les consommations énergétiques. Quoi. Allez, on va passer au web. avec les webhooks. On avait déjà parlé que les gens essayaient d'avoir des bonnes pratiques pour les webhooks, et là, il y a une initiative. Alors, l'idée, c'est une standardisation des webhooks. Donc, c'est des gens de Zapier, Twilio, Ngrok, Kong, Sybase et d'autres. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il n'y a pas GitHub, il n'y a pas les cloud providers, il n'y a pas GitHub. Mais bon, il y a quand même des gens qui font des API pas mal. Ils se rejoignent pour essayer d'écrire des bonnes pratiques et de standardiser un peu l'approche des webhooks. Parce que, alors déjà, la spec, elle est open source, elle est Apache. Elle est sur GitHub. Voilà. L'objectif, c'est d'optimiser la sécurité, la disponibilité, la reliability, l'interopérabilité, la simplicité, la compatibilité ascendante, descendante des API webhook. En fait, sans l'aspect, ben, chacun qui design son API va designer le webhook d'une façon ou d'une autre, dans son comportement, et notamment dans son comportement en cas d'erreur ou de réessai, etc. Donc, en fait, chaque librairie client qui va devoir accéder à un webhook d'une API donnée va devoir comprendre ce comportement et l'implémenter avec un standard. Il y aura déjà une connaissance commune des développeurs et du coup, peut-être des librairies qu'on va pouvoir écrire pour traiter de manière systématique les erreurs de la même façon, etc., etc. Ils définissent aussi la structure de non pas la payload en tant que telle, mais ce qu'il y a autour, donc l'enveloppe, notamment voilà, sur le timestamp, définir sa taille, définir sa sécurisation. Donc, elle est non pas chiffrée, mais elle est signée avec du HMAC, par exemple, ou ce genre de choses. Voilà, donc pour les gens qui designent des webhooks, c'est définitivement quelque chose à regarder et peut-être s'aligner sur. Voilà.
Sinon, là, on va passer à un petit sujet qu'on ne parle pas beaucoup, qui est le data et l'intelligence artificielle. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on y parle.
On va en parler plus. On va faire un podcast pas. Dédié, peut-être, tu vois.
Oui, en fait, c'est du... j'ai l'impression... J'ai l'impression que je suis en train de chanter du flamenco toute la journée, quoi. En disant, aïe, j'entends que ça. et donc, voilà, on a...
À la pub sur les hémorroïdes,
ouais.
En fait.
Aïe. C'est un peu douloureux, parfois, aussi. Quand t'en as jamais, oui, en fait, le flamenco, c'est, tu vois, il y a beaucoup de douleur quand il chante aussi, donc pourquoi oui, pas. Vrai, ouais, et le AI, le IA, bah ouais, c'est quelque chose. Donc Google annonce comme ça, c'est cette news, c'est toi qui l'as mis, je crois, non?
Ouais. Ils annoncent leur nouveau moteur, oui. Gemini. Je me rappelle plus le nom de celui d'avant, mais en tout cas, là, ils annoncent Gemini, qu'ils avaient annoncé comme un truc qui allait vraiment être de niveau d'après. Donc, c'est leur large language model, qui est multimodal. Alors, multimodal, ça veut dire qu'il peut prendre plusieurs typologies d'entrée, en fait, que ça soit du texte, des images, du son, des vidéos. Donc, alors ça prend pas le goût, le tactile encore, mais on voit les humains, en fait, on est multimodal dans ce sens-là, d'accord? Et donc cette idée de moteur multimodal, bon, on l'a vu un petit peu sur ChatGPT, qui était capable de recevoir pareil des images, du texte, etc. Mais de ce qu'on sait, parce que c'est pas, contrairement à ce que dit le nom OpenAI, c'est pas ouvert, mais c'est du multimodal où ils ont des LLM spécifiques sur chacun des modes. Et après, ils font l'intégration là-dessus. Là, Gemini est multimodal, en gros, à tous les niveaux. Donc, chaque élément du LLM sait comprendre tous les trucs. Enfin, après, c'est ce qu'ils nous disent. C'est pareil, c'est pas comme si c'était ouvert non plus. Alors, d'après les benchmarks, il est largement aussi bon que GPT-4, voire même meilleur dans beaucoup de catégories. On en reviendra un petit peu après là-dessus. Et puis, il y a plusieurs tailles disponibles. Nano, dont l'objectif, c'est d'être intégré dans les Android, enfin dans des mobiles. Pro, qui est utilisé pour la plupart des cas, peut-être de votre ordinateur jusqu'au data center pour des cas moyens. Et puis, ils ont un mode ultra qui est pas à disposition des gens aujourd'hui. Il est encore en test de par la Red Team, donc test de validation de anti-attaque, etc. Pour les réflexions plus avancées. Évidemment, plus vous utilisez un modèle plus grand, plus c'est long, plus c'est coûteux en consommation, enfin en consommation et en et juste en temps de calcul, et du coup plus c'est cher. Et du coup, Android va rajouter des librairies spécifiques AI Core pour utiliser Gemini Nano dans les pixels. Et Gemini Pro, je sais pas si c'est va ou est déjà disponible dans Bard en fait. Donc Bard, c'est le chatbot d'exploration de la recherche en mode chat de Google. Et donc Bard, en fait, le chatbot, il s'appuie sur un LLM et donc c'est Gemini Pro qui l'utilise. Et là encore, dans plein de pays, ça va être dispo, mais en Europe, on a encore... je pense qu'il y a des craintes légales et du coup, on va encore falloir attendre un petit peu. Voilà, et Gemini Ultra va rejoindre Bard, mais je crois que c'est à partir de l'année prochaine, quelque part, début d'année. Voilà, ensuite, il y a plein de liens. DeepMind, qui est la division chez Google, qui a probablement travaillé sur ce modèle-là. Un rapport de 60 pages sur Gemini, donc un peu un papier de recherche. Il y a une vidéo ou un texte qui explique. En fait, il y a un truc qui s'appelle AlphaCode qui, rentre dans les compétitions de développeurs qu'on a vu. Je sais plus comment ça s'appelait en France. Là, il y avait le meilleur dev de France ou ce genre de choses. Donc voilà, ce genre de compétition. Donc là, une intelligence artificielle qui rentre et donc on a vu qu'il y a eu vraiment un bond de capacité à prendre l'énoncé et à sortir, à pondre le bout de code qui va effectivement répondre à la question. Et puis pas mal de petites vidéos.
Ça nous rassure, ça nous rassure, ça, tous les développeurs. on est rassurés. Qui a gagné le meilleur dev de France? Ah, bah, c'est le IA. Ah, mince.
Comme ça.
OK.
On va faire autre chose. C'est ça.
Bon, bah, salut.
Bon, après, c'est pas hyper représentatif de ce que tu fais tous les jours.
Ben, évidemment, évidemment.
Alors, juste, il y a eu une mini polémique parce que certaines annonces sont un peu, je sais pas, tant fausses que un peu masquées une partie de la réalité. Du coup, ça a amené à un discrédit un peu excessif autour de Gemini qui a l'air vraiment bon par lui-même. Donc, deux exemples. La vidéo aspirationnelle multimodale, là, en fait, c'est vraiment un montage. Déjà, Gemini Ultra, on n'y a pas accès. Et puis, c'est plus aspiratif que ce que sait faire, effectivement, Gemini Ultra, de ce que je comprends aujourd'hui. Et puis, la comparaison avec ChatGPT, il comparait... Alors, dans le papier de recherche, c'était comparé proprement, mais dans ce qu'ils annonçaient dans leur blog ou dans les vidéos, c'était... ça comparait des pommes et des oranges, parce que c'était des benchmarks différents, genre on prend les meilleurs de 5 questions versus une approche différente dans le benchmark. Voilà. En tout cas, notre Guillaume national, voire local, voire micro-local, a écrit un article sur comment utiliser Gemini en Java avec les API Vertex. Alors Vertex au sens Google Vertex, pas Vert.x. Et donc c'est Gemini est multimodèle, donc les API Vertex sont, c'est des nouvelles API en fait qui sont dedans avec un SDK en Java et évidemment des conversations avec nos amis de LangChain et LangChain4j pour intégrer ces nouvelles API et les abstraire. Voilà. Et en parlant d'intelligence artificielle, Facebook n'est pas en reste.
Ouais. Oui, on a Purple Llama, donc. Voilà, à nouveau, donc là, pour le coup, c'est open source, normalement, et c'est dans l'optique des générations AI ouvertes. Bah, Facebook, il fournit ses outils pour faire des AI responsables, et il y a quelqu'un qui a rajouté, mais pas coupable. Ouais. Donc,
c'est une question plus profonde oui. Que la blague pourrait faire penser.
Bien sûr. Et donc... j'ai pas trop à rajouter d'autres qu'on a mis un peu dans les notes ici, qu'il y a pas mal de benchmarks qui ont été faits, il y a eu pas mal de, d'exemples.
Ça fournit des benchmarks pour que vous puissiez évaluer votre, la sûreté, ou de l'AI générative que vous allez fournir, et voir avec un classifier de sûreté, justement, par exemple, pour ne pas générer du code malicieux. Donc, en fait, ce qui a l'air d'être fait en termes de pattern, c'est de mettre des LLM qui vont filtrer le prompt LLM avant de le donner au LLM central, notamment en termes de « Oh là là, lui, il demande à créer du code qui va faire une bombe nucléaire, donc j'interdis la réponse, en fait. » Voilà, donc ils ont open sourcé un certain nombre de ces approches-là.
Et du coup, oui, en fait, tout le monde s'y met, quoi, en gros.
Ouais, mais là, coup, Facebook, c'est l'approche ouverte de plus en plus. Alors, je sais bien qu'il y a un débat sur Llama 2 et est-ce que c'est open source ou pas, mais là, Llama Purple, c'est vraiment des outils complémentaires autour des LLM qui sont ouverts et c'est vraiment un projet parapluie dans l'intention de rajouter, d'amener d'autres choses dessus.
C'est ça, et donc il y a aussi IBM, Red Hat et d'autres qui s'agrègent dans cette optique, et Google OpenAI et Microsoft pour l'instant sont absents.
Ouais, en fait, ils ont annoncé un truc qui s'appelle la AI Alliance, donc l'alliance de l'intelligence artificielle, qui prône une intelligence artificielle ouverte et en travail collaboratif entre l'académie et les industriels, et surtout ouvert. Et du coup, Meta et IBM sont les deux principaux initiateurs de cette alliance, mais il y a genre une soixantaine de membres fondateurs entre des universités, Red Hat et pas mal d'autres. Enfin, vous pouvez aller voir la liste, il y a des noms que vous allez reconnaître. Et effectivement, les gros de l'intelligence artificielle aujourd'hui, à part Meta évidemment, mais Google, OpenAI, Microsoft, X, si on peut les considérer comme ça, ils sont pas dedans. D'ailleurs, X, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais j'ai vu sur X, en fait, il y a X.AI, là, qui a cette intelligence artificielle qu'ils appellent Grok, là. Et apparemment, elle aurait, je ne sais pas si c'est vrai, parce que, voilà, c'est facilement photoshopable, mais elle aurait répondu quelque chose de, enfin, comme si elle était OpenAI, en fait. Donc, ce n'est pas hyper clair si Grok, c'est un fork, ça réutilise OpenAI en dessous, voilà, il y a pas mal de questions. Ça a levé pas mal de questions, ce truc-là. J'ai pas vu de réponse particulière. Et puis, il y a un guide d'utilisateur de l'usage de l'intelligence artificielle responsable, mais pas l'usage au sens exposition de l'intelligence artificielle à d'autres, pas genre comment moi j'utiliserais l'intelligence artificielle. Donc voilà, tout ça c'est dans Llama Purple. Apple aussi vient de sortir une librairie de machine learning, intelligence artificielle, est vraiment optimisée pour leur processeur, leur silicone à eux.
Les M quelque chose, M1, M2, M3, etc.
Ouais, parce qu'ils ont ce qu'ils appellent leur neural engine, qui sont en gros les équivalents de tensor CPU, enfin en tout cas sémantiquement, quoi. C'est ça. Et donc, ça s'appelle MLX, et c'est une librairie Python qui s'inspire de NumPy, PyTorch et tous les tutti quanti. Et c'est vraiment développé spécifiquement pour les Mac pour tirer le maximum de métal et des Neural Engine et des choses comme ça. Donc, il y a des exemples dans le repo GitHub pour faire tourner nativement justement les modèles Llama, Mistral et d'autres. J'ai vu que Whisper aussi, c'était utilisé comme benchmark de... l'exécution. Whisper, c'est le truc qui prend qui prend du son et qui convertit en texte, enfin des phrases et convertit en texte.
On peut imaginer que tout ça, c'est justement lié à tout ce qui est Siri et tout ça, qu'ils le font déjà, puisqu'ils utilisent le hardware pour toutes les fonctionnalités qu'ils ont ramenées sur le laptop ou sur le mobile, et que tout ça, au fur et à mesure, ils vont essayer de le mettre à disposition des autres.
Je sais pas si c'est subjectif, mais moi, Siri, mes enfants, ils gueulent de plus en plus dessus. Là, j'ai l'impression qu'ils comprennent moins les choses. Genre, tiens, tu peux mettre telle chanson, et puis hop, on a un autre truc, genre la techno basée sur je sais pas quoi. Et voilà. Il comprend rien, Siri.
Pour Amazon, enfin, j'ai l'impression que c'est ce qui est étonnant, parce qu'effectivement,
enfin, régression un peu ou un truc comme ça.
Toutes les IA, elles avancent super vite et tout. Et en fait, eux, je sais pas s'ils régressent ou s'ils stagnent, et ce qui fait que comme nous, on voit tous les autres trucs à côté qui bah, sont tellement plus efficaces, les chats GPT, etc., qu'on se dit, mais t'es con, enfin, et je me rends pas compte s'ils régressent ou si juste ils stagnent et que c'est nous qui en attendons le plus d'eux. Mais je suis d'accord qu'aujourd'hui, on les voit pas évoluer à la même vitesse qu'on voit les autres systèmes avancer, donc.
Ouais. Bah, tu veux, après, hein, c'est une question de contexte aussi, tu vois, je lui demandais, hein, je sais pas là, mes enfants, ils ont entendu Santiano de Hugo Frey, donc à l'école, donc ICO, machin. Donc là, Santiano te rappelle plus que c'est le titre de la chanson, donc tu lui dis, vas-y, chante ICO, quoi. Alors ICO, en fait, il y a plein d'autres trucs qui n'ont aucun rapport avec Hugo Frey. Donc voilà, et donc c'est frustrant, évidemment, pour tout le monde. Voilà. Et y a un truc spécifique à l'Apple Silicon, c'est qu'ils ont de la mémoire unifiée entre le CPU, le GPU. Voilà, il y a des choses qu'ils peuvent faire de manière vraiment sioux, qui est pas disponible dans d'autres architectures. Voilà. Sinon, on en reparlera après, mais on a des calendriers de l'avant, évidemment, puisque nous sommes en décembre. Et il y a notamment une des cases qui était comment faire tourner Java dans un notebook. On en avait parlé un petit peu. Et là, du coup, c'est un article un peu plus détaillé là-dessus qui explique que Jupyter, le notebook Jupyter, justement, il a des notions de kernel pour faire tourner des choses différentes. Mais ça demande de déployer des nouvelles images de Jupyter avec les kernels qu'on veut, etc., etc. Et donc, il y a des kernels Java. Et du coup, ce qu'a fait Max avec JBank, c'est qu'il a fait un JBank qui s'installe avec Python, donc avec Pip. Du coup, c'est disponible dans tous les Jupyter Notebooks de la planète. Et JBank va aller installer la JVM qui va bien, installer le kernel qui va bien, et va pouvoir exécuter vos morceaux de Java qui font partie de votre notebook Jupyter. Voilà, donc si vous êtes un peu dans le monde, non, je ne ferai pas de Python pour faire l'intelligence artificielle avec Katia, vous pouvez aller faire la grève.
On veut, toi, développeur Java, toi, unis-toi,
résiste.
Unisons-nous, oui,
résiste.
Résistons ensemble, résiste. En effet. Ouais. Java, elle est là. Java, on veut la tuer depuis que je suis sortie de la carrière, moi, personnellement. Java, depuis que j'ai fini mes études, on veut la tuer, mais non, on va résister.
Ben, surtout même que
l'IA ne va pas nous tuer.
C'est une bonne question. J'aimerais bien, quelqu'un qui connaît bien Java et qui connaît bien Python, j'aimerais bien savoir les calculs vectoriels, les optimisations en utilisant les opérations vectorielles des processeurs. Qui, en termes d'intégration et de puissance, est là, parce que depuis Java, on en parle depuis quelques années, là, des travaux vectoriels, du MIMA ou Single Instruction Multiple Data SIMD, tu te dis qu'il y a vraiment du potentiel à faire des choses vraiment encore plus efficaces, même si effectivement l'écosystème en termes d'outils mathématiques, en tout cas spécifiques au machine learning, il est énormément développé en Python. Mais ce qu'on voit, c'est que du coup, les gens, ils disent « Ah, bah, du coup, pour faire une appli web qui utilise de l'IA, bah, je vais la faire en Python. » Alors que, et là, on voit, ça y est, ça commence à changer parce qu'on voit des trucs comme Langchain4j, Langchain.js, Langchain.go qui permettent d'aller réapproprier l'intelligence artificielle, en tout cas son utilisation à partir d'une application dans des langages qui sont historiquement plus utilisés dans le développement applicatif.
Ça permet d'ouvrir sur des technologies qui effectivement ont pas été les bases pour mettre ça en place. Après, je sais pas si un jour on détendra Python first sur la partie IA. Et moi, je vois que mon fils, il est en études et il est à la fac, il fait de l'informatique. Et bien sûr, il apprend en premier Python, comme beaucoup de jeunes aujourd'hui. Ça reste le langage qui est quand même super accessible pour tout le monde. C'est vrai que Java à côté de ça. Ça pique. Ouais. Donc, mais bon, en tout cas, c'est bien qu'on puisse enfin casser ces murs et se dire ouais, non, c'est accessible à tous. Mais après, je sais pas si ça sera un jour si on changera la tendance pour dire ah non, je vais faire l'IA, bah je vais faire le Java. Ça, c'est chaud.
Allez, on va faire loi société organisation, mais on va voir si on peut le faire. Donc il y a deux choses. Le premier, c'est qu'on avait parlé du Cyber Resilience Act de l'Union européenne. dont l'idée était de dire, bah, au lieu de que la responsabilité du software qui se fait trouer, ça soit le client, elle va, la client au sens de la personne qui déploie le logiciel qui a été fait par un éditeur, la responsabilité vient vers l'éditeur. Donc l'éditeur, il est responsable d'annoncer ses trous de sécurité, de les corriger assez vite, de fournir les patchs, etc., etc. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle d'imposer et de mettre un peu la pression sur les éditeurs là-dessus, sauf que ça avait créé toute une peur au niveau communauté open source, notamment les fondations, parce que si les fondations doivent se prendre toute la charge de travail que ça impose en termes régulateurs et de process surtout, ben il y avait une peur que du coup l'open source un peu non hyper professionnel en fait tombe un peu, donc il y a un peu une perte. Et donc il se trouve que moi j'ai fait une partie de la keynote de l'Open Source Experience qui est une conf qui s'est passée au Palais des Congrès. D'ailleurs, j'ai vu le futur d'Evox France, là. Enfin, le même endroit, quoi. Il semblerait, alors c'est au conditionnel, en tout cas au moment où j'écoutais ça, parce qu'il y a le ministre des Nouvelles Technologies là, qui était là et qui disait qu'il y avait eu quand même assez de messages remontés pour que ça ait été écouté par les gens qui sont responsables de ce texte-là et qu'il y ait une révision qui allait être reproposée, qui allait prendre ça un peu plus en compte pour alléger. Donc, toutes les remontées, qu'elles soient venues par les gouvernements ou par la société civile, semble avoir un peu payé pour limiter ça. Donc ça, c'est le premier. Et le deuxième, c'est qu'effectivement, il y a toute une réglementation autour de l'intelligence artificielle qui vient d'être votée en Europe. Je ne sais pas si Arnaud, tu veux en dire deux, trois mots. Par Thierry Breton.
Ouais, c'est ça. Donc c'est passé là il y a quelques jours. Alors, j'ai plus tous les détails en tête parce qu'effectivement j'ai oublié de noter l'article quand je l'ai lu. Mais effectivement l'idée c'est de classifier déjà un petit peu les différentes IA, les différents usages et d'adapter un peu les règles en fonction des usages, d'essayer de mieux contrôler. Donc par exemple interdire les IA pour tout ce qui va être de mémoire, j'ai en tête la reconnaissance faciale et des choses comme ça. Donc, il y a des choses où effectivement, ça sera soit interdit, soit très contrôlé. Donc, que les usages de l'IA soient, dans certains cas, très contrôlés pour effectivement, bah, justement, éviter les dérives diverses et variées. Mmh. C'est une toute première version, c'est un tout premier texte qui est en train de sortir. Et bon, bien sûr que ça fait pas que des heureux. Tout le monde se dit, ah, ça y est, on va encore casser l'innovation en Europe. On va encore tous se barrer aux États-Unis pour innover parce qu'en IA, c'est trop compliqué. Mmh. Ils ont essayé de trouver un juste milieu. Est-ce qu'ils vont vraiment l'avoir? C'est pas simple. Mais effectivement, bon, au moins, ça vaut le coup de se poser les questions. Ils se sont posé les questions. Ça a été long, hein. Ça fait, je sais plus combien de moi qui bosse sur le sujet et voilà. Donc mais j'ai plus effectivement en tête les détails, j'ai du mal à retrouver un article.
On essaiera d'en revenir dessus, ouais,
le mois prochain.
Si quelqu'un veut faire un podcast là-dessus, parce qu'il c'est sa passion de regarder la Commission européenne et les interactions.
Il y a une notion de risque élevé d'usage de l'IA, et dans ce cas-là, dans le cadre de l'usage, il faut que ça soit supervisé par un humain, il faut que ça soit qu'il y ait un système adéquat pour atténuer les risques, faut qu'il y ait des résultats traçables, etc. Donc voilà, c'est vraiment dans une logique de se dire, on classifie, on fait attention de là où on met de l'IA, et en fonction des cas, on va adapter un peu les pratiques autour de l'IA. Mais effectivement, on viendra dessus le mois prochain, je pense qu'on retrouvera des bons articles qui décrivent, ouais, ça un peu mieux que ce que je peux faire de mémoire.
D'accord. Allez, on va passer à l'outillage. Et c'est pas vraiment de l'outillage, mais c'était sympa. Il y a Sphere sur leur blog, la Sphere Dev, qui ont fait un blog sur la liste des jeux orientés développeurs. Et donc, vu que c'est la période de Noël, et que si vous êtes un développeur passionné avec le nombre de N qui vous plaît, vous pouvez du coup décider. Enfin, il y a quatre jeux qui sont proposés là-dessus, et puis d'autres un peu plus rapidement. Et c'est toujours autour de la logique, autour de le code qui devient le puzzle lui-même. Donc c'est une résolution de puzzle, mais avec du code. un truc où on interagit avec le reinforcement de machine learning d'une intelligence artificielle, un autre truc qui est plus au niveau assembleur. Alors, je sais pas qui a fait les fameux TD où vous aviez à écrire en assembleur un ascenseur qui doit pas tuer les gens qui sont dedans, etc. Bon. Qui n'a jamais tué quelqu'un dans son TP d'assembleur là-dessus. Voilà, donc il y a un truc qui s'appelle Tissant qui a l'air de me rappeler un petit peu ça, qui est du coup beaucoup plus bas niveau. Donc voilà, si vous en avez pas assez des journées, que vous voulez encore la nuit vous jouer avec les jeux, n'hésitez pas à regarder cette liste-là. Il y a peut-être quelque chose qui va vous accrocher. Voilà, et puis sinon, bah, il y a des calendriers de l'Avent, on en a parlé d'un. Celui qui est vraiment connu, c'est le Advent of Code, qu'on peut faire dans n'importe quel langage, mais qui dit un problème et il faut donner la réponse et on peut l'écrire en ce qu'on veut. Donc, quand on est motivé, on se dit, tiens, je vais apprendre tel langage que je connais pas et de l'écrire dans ce nouveau langage-là, ça vous permet d'apprendre à la dure avec des petits puzzles concrets à faire au fur et à mesure, hein, par jour. Et puis il y a le Advent of Java qui est, je sais pas si, attends, l'Advent of Java, oui, c'est un calendrier, mais qui pour le coup c'est des articles, c'est pas des petits puzzles à faire. Il y a un tutoriel SVG, hein, donc un Advent of SVG. Il y a le calendrier HTML Hell qui parle d'accessibilité, de web composants, de malice méta. Des choses qu'on peut faire en HTML, CSS sans avoir besoin de framework de 38 millième génération. Voilà. Et puis TypeScript aussi, il y en a un pour un calendrier de l'avant pour vous. Voilà. Sinon, donc on est toujours dans l'outillage. Il y a un thread sur X, aussi appelé Twitter, aussi redirigé de twitter.com vers x.com, sur la visualisation, la fameuse data vis, la visualisation des données. Et donc elle liste en fait les outils qu'elle utilise pour, à partir de, en gros, d'un tableur. Donc elle dit qu'elle utilise Google Spreadsheet, mais ça peut être n'importe quel tableur. Partir de ces données-là, parce qu'à la fin, c'est un fichier CSV que vous allez envoyer à ces outils-là, comment générer toutes sortes de visualisations, des outils libres ou payants, mais pour faire des tree map d'Andro, Sankey, pour la cartographie aussi, de faire des visualisations par pays, ou quand on voit genre l'Europe avec la taille relative de pays en fonction de la consommation carbone, et tu vois là une petite France ou une grosse France, ou ce genre de choses. Il y a pas mal de ressources, de sites qui conseillent sur les bons types de visualisation en fonction du problème, parce que ça c'est une des choses qu'il faut un petit peu d'expérience dessus, ou en tout cas d'avoir lu dessus. Et notamment il y a un fameux one pager de Financial Times qui explique comment ils représentent les données, comment ils font les choses. Donc ça c'est pas mal pour vraiment juste savoir de quoi on parle là. Voilà, c'est un petit peu long à lire, donc il faut vous poser un peu de temps pour le lire, mais c'est sympa. Et sinon, il y a Guillaume qui nous filait une liste d'outils sympas. Alors, JC qui permet de convertir la sortie de commande, de ligne de commande, du genre toutes les lignes de commande de fonctions basiques en JSON.
Ouais.
Et du coup, pouvoir après les travailler en JSON et les processer de manière un peu plus simple qu'avoir à les parser la ligne de commande à la main. Voilà,
c'est à l'heure de bouger la tête. Avec JQ, etc. Alors, tu peux tout chaîner, puis faire ta liste des répertoires, machin, etc. Puis...
Voilà. Altab pour macOS qui permet de... Alors, je ne me rappelais plus, mais effectivement, il y a une différence entre passer d'une appli à l'autre, entre Windows et Mac, je crois qu'il y en a un qui est flat, c'est-à-dire que les fenêtres de la même application passent l'une après l'autre, alors qu'en Mac, c'est d'une application à l'autre et il y a un autre raccourci pour passer de fenêtres différentes dans la même application.
Je n'ai jamais trouvé celui-là, mais je suis d'accord avec toi que c'est bien la grosse différence entre l'un où tu passes entre toutes les fenêtres, quelles que soient les applis, c'est Windows, et sur Mac, c'est juste entre les applis de base.
Ouais. Donc là, il y a un appli. Enfin, si vous venez de Windows et que vous regrettez ça, moi c'est pareil. En tout cas, au moment où j'ai quitté Windows, le truc qui me manquait vraiment, c'est le file Explorer que... Alors maintenant, il s'est un peu dégradé, j'ai l'impression.
Ouais, quand on voit ce qu'il est devenu,
le tri
franchement.
D'un côté, les files c'est de l'autre, ça. Là. C'est ça que c'est je voulais. Ça. Le Finder, c'était un peu minimaliste pour moi. C'était un peu duré.
L'autre, maintenant, c'est une horreur. Enfin, c'est... Enfin, moi, je...
Ouais, maintenant, c'est pas clair.
Il y a des boutons partout. Il y a des. Il y a quasiment des pubs.
Sur Windows.
Ouais, dans Windows. Ouais.
Oui, moi, ça fait tellement. J'oubliais. Le seul moment que je suis confronté à Windows, c'est quand mon père me demandait il y a un truc qui va pas.
Et quand tu auras le temps.
Plus accéder,
quand
temps. Oui, quand tu auras le temps, mais du coup, tu viens cet après-midi au bureau. mais sinon, par ça, franchement, j'ai vraiment, je pense que ça fait trop longtemps. Mais en effet, ces côtés de fenêtres, si, c'est un truc que j'ai garde en tête et qui était, pour le coup, c'était cool. Ça, c'était, qui était pas mal. Donc, mais je pense que je me suis déjà trop habituée. Et sinon, il y a d'autres outils que Guillaume a proposé, Grown, pour faire du JSON. Mais,
en fait, c'est l'inverse de JC un peu. C'est qu'à partir du JSON, d'un JSON, oui. Vous allez le rendre grepable. Le problème de JSON, c'est que, par exemple, la valeur va être potentiellement sur une autre ligne que la clé et encore moins que le container du dessus. En fait, c'est un peu comme si vous étiez une association genre user.name.firstname. Ça, c'est la version à plat de la définition de JSON. User.name.firstname égale Emmanuel. Alors que dans le JSON, ça serait user, open bracket, name, open bracket, first name, deux points, Emmanuel. Voilà. Du coup, ça permet de faire des greppes là-dessus.
Oui.
Parce que ça transforme la structure. Et après, on peut revenir en arrière.
Et donc après aussi il y a Marker, un outil écrit en Python pour transformer des PDF en Markdown. Ça c'est vraiment pas mal.
Je suis curieux
mal.
D'essayer en fait. Ouais. Tu
c'est
l'as essayé ou pas
mal. Je l'ai pas essayé, mais c'est vraiment pas mal comme idée en tout cas.
Ouais,
j'ai envie de l'essayer parce qu'en effet ça c'est très très pratique. Ensuite il y a N8N, workflow open source.
Ouais, c'est un peu à la... Comment on appelle ça ? C'est un peu à la if this then that, mais c'est en mode workflow. Donc, on dit, j'ai une HTTP request, je vais extraire tel morceau, je vais l'envoyer dans OpenAI, je vais parser le JSON. Du coup, tu peux coder... c'est un peu la scratch, en fait. Tu peux coder sans vraiment coder, c'est graphique. Et puis après, tu peux double-cliquer sur une boîte pour aller zoomer le code, mais tu as beaucoup de choses qui peuvent être faites de manière graphique. Et je crois que c'était le dernier. Hein.
Oui, ouais. C'est le dernier.
Oui, oui. Et
juste Marker, c'est ça qui est chaud. C'est tu dis, ils font un parseur et puis ils disent, quand je vois tel tableau, je le transforme en Marker. En fait, non, ils utilisent de l'intelligence artificielle pour bourriner du PDF vers le Markdown. Mmh. Et visiblement, il y en a un autre outil qui s'appelle Nougat qui fait ça, mais qui hallucine plus. Donc eux, ils disent qu'ils hallucinent moins.
Ouais. C'est beau les IA.
Hein, ces gens statistiquement, ça va faire le bon boulot, mais
le IA pour tout en fait. L'IA pour faire mes courses, ça va. J'espère que ce jour va venir. Il y a une IA qui va partir.
Ça
ne viendra
pas de Monoprix en tout cas, mais.
Ouais. Donc une petite news parlant d'acquisition. Qu'on a parlé tout au début de côté Spring. Là, il y a Docker qui a fait une acquisition de Test Container.
De Atomic Jar, ouais.
Ouais.
La boîte derrière
Test Container. Exactement. Et il y a, ça a fait du sens quand même.
Oui, ça fait du sens. Ouais.
Ça fait du sens. C'est vraiment, on se dit, attends, voilà un couple qui se met ensemble et qui vont bien ensemble, j'ai l'impression, de l'extérieur en tout cas. Ouais. Donc on verra ce que ça donne. Et,
les gens de cœur, ils ont regardé les logs et en fait, il y avait vachement d'appels test container, du coup, on s'est dit, tiens, il y a quelque chose là.
Ah oui, il y a quelque chose, je vais aller parler avec Atomic Jar. Et là, l'histoire d'amour s'est fait apparemment, donc c'est beau et on le souhaite une longue vie à cette nouvelle couple de la tech.
Voilà.
Et on passe à l'architecture.
Ouais.
Comme ça, sans transition. Donc, il y a quand même encore quelque chose de comment faire comment do it yourself. Donc là, c'est comment faire la reconnaissance des chansons type Shazam.
Ouais.
Donc, il y a quelqu'un qui nous explique
sans
comment
intelligence
le faire.
Artificielle.
Voilà, sans intelligence artificielle à la main. Donc, bah, à la main.
À la main, non, c'est pas Thierry Ardisson non plus. C'est pas...
donc, d'abord, bon, voilà, il y a toute une explication de comment ça se fait. Donc, je pense qu'on peut laisser les gens qui sont curieux aller le lire.
Juste rapide,
sauf
s'il
y a... oui.
Juste rapide, parce que c'est un truc, moi, j'ai... Enfin, si vous avez... Enfin, moi, j'ai souvent entendu parler des transformations de Fourier quand j'étais à l'école, mais sans vraiment comprendre vraiment ce que ça voulait dire, genre physiquement, quoi. Et là, ça explique donc le passage de la transformation de Fourier, c'est de passer, au lieu de passer dans le temps, genre là, votre voix, elle est un peu sinusoïdale, donc elle monte, ensuite elle redescend un peu dans le temps, etc. Et donc là, ça le retransforme, mais en mode fréquence, donc ça change l'axe X, en fait, de choses-là. Et du coup, ils font des transformés de Fourier par petits morceaux de la chanson. Et en gros, ils regardent les fréquences qui sont les plus hautes, qui ont le moins de... les 3, 4 pics ou 5 pics dans cette morceau-là, qui ont le moins de chances d'être déformés, transformés, bougés. Et du coup, ils prennent ces 3, 4, 5 pics et ensuite, ils vont regarder la distance entre un pic et un autre. Et ça va être leur H de similarité. Et ils font ça pour les chansons qu'ils ont, ils font ça pour la chanson que vous recherchez, le morceau de chanson, et ils essaient du coup de trouver l'algorithme, c'est ça qu'il fait en gros. Il filtre un peu les données pour prendre les plus intéressantes, il regarde la distance entre ces données, et ça c'est de l'information qu'il a dans sa base de données pour savoir si une chanson est proche d'une autre. Voilà, bon, en tout cas ça c'était l'implémentation de base quoi. Mais effectivement, on a eu pas mal d'articles longs, hein. On s'est pas facilité la tâche. Et il y a pas mal de choses intéressantes. Enfin, si ça vous intéresse, c'est un bon article pour zoomer. Puis il y a du code derrière qui vous pouvez aller sur GitHub pour regarder comment c'est fait. Allez, méthodologie.
On reparle d'IA, ça nous a manqué.
Ouais.
Étonné.
C'est Startworks qui a une boîte de conseils en fait assez connue qui avait parlé d'agile, enfin qui a pas mal de papiers sur le truc. Ils ont pas un radar mais ils ont un cadran, enfin ils ont un truc.
Ouais.
On en parle souvent. Ils ont un truc où ils disent adopter, évaluer, ce genre de choses quoi. Donc là, il parle de retour d'expérience sur les outils de génération de code par intelligence artificielle de type copilote.
Donc c'est Martin Fowler qui l'écrit.
Je ne crois pas que ce soit Martin Fowler qui l'écrit, mais Martin Fowler.
En tout
Fowler
cas, il y a un lien vers l'article dans lequel c'est Martin Fowler quand même.
Oui, mais c'est, je pense que c'est juste que comment elle s'appelle là. Je crois que c'est une dame qui l'écrit.
Il remercie des gens, donc je ne sais pas si c'est lui qui a tout écrit, mais il remercie des gens.
Il y a un lien. C'est pour ça.
Brigitta Bockler.
Oui, ah oui. Et en fait, dans le note, on a un lien vers un article de Martin Fowler, c'est pour ça.
MartinFowler.com, c'est un peu comme le truc autour de Spring, là, Baldug. En fait, c'est
comme Baldug. Voilà, il y a plein de personnes qui contribuent. Ouais.
Voilà. Et en gros, ce qu'elle dit, bon, c'est frappé du bon sens, hein, mais que. Il y a toute une liste de questions à se poser quand on utilise cet outil-là et qu'il faut bien réaliser que l'IA, elle n'a pas raison à 100% dans ses réponses. Donc dans son expérience, c'était plutôt du 50-50. Donc, il faut mettre à jour ses attentes par rapport à ça. Donc, c'est magique, ça peut t'aider, mais il faut garder son niveau de scepticisme au niveau qui va bien. Et elle trouve que dans 40 à 60% des situations, tu peux arriver à 40 à 80% de la solution. Mais voilà, donc il y a des fois, ça va se planter magistralement, des fois, ça va se planter sournoisement, des fois, ça va plutôt bien marcher comme base. Et du coup, elle se dit, bon, OK, sachant qu'on a ces stats, comment est-ce qu'on peut utiliser l'outil au mieux en lui faisant la confiance auquel il a le droit, quoi. Donc, ce qu'elle dit, c'est... Ne perdez pas trop de temps. C'est-à-dire, si vous devenez prompt engineer à passer 8h30 à écrire le prompt idéal pour générer le code, vous avez perdu l'avantage, c'est de vous booster initialement. Donc, vous tapez le truc, ça vous donne une info qui est peut-être fausse, mais ça vous donne peut-être l'idée pour aller vers la bonne solution. Donc, utilisez-le en limitant votre temps d'exploration. Elle dit au-delà de 10 minutes, si ça patauge, je vais aller lire la doc plutôt et puis chercher sur Google à l'ancienne. Mais qui hallucine pas, enfin, à part si le, le blog.
Et on réitère ce même processus en lisant les réponses de Stack Overflow. On passe du temps à Stack Overflow, on le filtre, on voit si c'est pas n'importe quoi, sinon machin. Et à la fin, après, tu vas lire la doc. Je pense que vraiment à la fin, tu vas lire la doc. Il y a d'abord tout un process Stack Overflow qui va utiliser l'IA aussi. Ouais.
C'est marrant parce qu'Arnaud et moi, à notre époque, c'était plutôt bon. Je lis la log du début à la fin. Je pense avoir compris la librairie et ensuite je me lance. En fait, c'est vraiment, on a changé de paradigme. C'est fou, quoi. Notamment, elle est sceptique sur l'idée de faire générer les tests par l'IA, en tout cas par la même IA dans la foulée, en fait, parce qu'elle se dit qu'il pourrait y avoir une hallucination consistante, en gros, entre les tests et le truc. Donc, en fait, il faut être en capacité de lire le code de test et le comprendre et de bien voir si ça teste vraiment ce qu'on veut, en fait. Donc, il y a ça. Et elle dit, après, il y a des... L'IA, elle va générer avec son style, sauf si on la restreint. Donc, peut-être qu'elle va vous amener une approche architecturale ou un pattern CSS, par exemple les Flexbox, mais peut-être que vous ne voulez pas utiliser les Flexbox dans votre équipe par convention ou c'est peu connu. Ou, voilà. Donc, faut aussi faire attention quand vous allez rajouter si ça va influencer l'approche architecturale de votre application. Ou alors la sécurité, bref, faites vraiment des vérifications là-dessus quand vous sentez que c'est le code, il devient un peu avec des changements stratégiques plutôt que tactiques, en fait. Et puis évidemment, en tout cas sans RAG, le LLM, il va pas savoir le dernier framework JavaScript du jour, puisque le LLM, il a été généré il y a 3 mois, et du coup, il manque 3-4 frameworks déjà. Donc il y a aussi une notion de fraîcheur des infos.
Ça marche très bien sur du toujours, code legacy.
Ouais. On voit bien que JavaScript va toujours plus vite que l'IA quand même aussi. Hein.
Ouais,
parce que là, l'IA, ouais, pour l'instant, l'IA va vite. Là, on est en mode, allez, chaque personne sort mon language model. Tout le monde sort son LLM. Hein. Là, comme tout à l'heure, comme à une époque, chaque personne sortait son framework backend Java. Là, pour le coup, sur ça, on s'est calmé. C'est parti dans le front. Ils se sont pas calmés, en fait, en JavaScript, en fait. Ils continuent, du coup, ils sont toujours en avance par rapport à l'IA, quand même. Mais l'IA, j'ai l'impression qu'on est dans ça à chaque nouveauté, à chaque semaine, hein, sur
les nouveautés sur chaque l'IA. Semaine, mais juste le... Ouais, c'est ça, la technologie se rafraîchit pas une fois qu'elle est donnée. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'acteurs, donc il y a beaucoup d'innovation. Mais une fois que... t'as fait ta version X de ton moteur LLM. Après, il y a quand même un, deux, trois, quelques mois de taf pour sortir le prochain truc révolutionnaire.
C'est ça.
Bref.
Mais nous, on va avoir le même problème chez Java avec nos releases tous les 6 mois. Ça devient compliqué d'avoir Copilot qui te propose les bons bouts de code de la dernière version de Java, etc. On va trop vite aussi. Il va falloir revenir aux anciens modes où on réalisait tous les 4 ans. Hein, ça sera mieux.
Ça, pour les banques qui bougent jamais, ou tous les clients d'ailleurs qui bougent jamais. Voilà,
Java 8, c'est bien couvert. Hein, ça, il n'y a pas de souci. Copilot, il va bien donner les bons trucs. Mais Java 22, je pense que ça va être plus compliqué.
D'ailleurs, c'était pas encore déprécié, disons, au moment du modèle.
C'est ça.
Allez, un petit article sur quelles sont les capacités nécessaires pour déployer un projet d'intelligence artificielle machine learning dans vos équipes. Et là, on parle pas de LLM, mais plutôt de là où littéralement vous allez générer le modèle ou le raffiner. Donc, c'est quels sont le MLOps. Alors, il y a quelques modèles de end-to-end que Google ou IBM proposent sur comment votre organisation va travailler gérer ça, mais du coup c'est assez prescriptif, du coup c'est pas forcément adaptable à votre organisation. Donc MLOps, déjà ils disent c'est vraiment un métier, il y a vraiment la data science, c'est un métier, MLOps c'est un métier, développeur c'est un métier, donc faut vraiment essayer d'avoir des experts, dans des gens plus qui vont se spécialiser un peu dans chacun des trois et d'intégrer ces compétences, c'est ça la clé en fait.
Moi j'attends par rapport à ça le IA agile. Le agile intelligence artificielle, c'est-à-dire une nouvelle méthodologie. Je l'attends, parce que tout le monde se met à l'IA et c'est sûr que l'agilité va sortir des choses spécifiques par rapport à ça. Je lance ça ici. Je l'ai pas vu encore passer, mais je pense que ça va venir.
Parce que c'était human before process, et là maintenant, ça quoi?
Ah, AI before human. Qu'est-ce qu'on fait? Les stories de machin. Moi, j'ai, en tout cas, j'ai envie de voir comment on va venir. Parce que là, justement, cette partie, cet article qu'on a mis, ça parle plus de, voilà, l'organisation, etc. Et comment on fait tout ça. Et je pense qu'il y a des choses qui vont arriver vis-à-vis de ça. Tu sais pas s'il y a d'autres choses à dire par rapport à ça ou on enchaîne?
Ouais, les autres exemples, ils disaient qu'il faut bien gérer son catalogue de données, construire un bon processus de test pour tester de manière continue, notamment pour le drift. Et que ce que j'avais trouvé vraiment intéressant dans cet article, c'est qu'il dit il y a vraiment deux cultures différentes. Il y a la culture de je gère, je suis en gestion, j'exécute, qui est le mode développeur. Et t'as la notion de culture de recherche. Oh, j'explore un truc. Ah, ça y est, c'est tombé en marche. Hop, j'écris un papier, puis je me casse. Du coup, faut vraiment arriver à fusionner un peu ces deux cultures différentes, en fait. Voilà. Sinon, bah, on va pas pouvoir les décrire, mais il y a un article qui décrit les 10 dark patterns en termes de user experience et puis comment essayer de les éviter. Donc, c'est des patterns qui sont assez explicites, qui sont choisis exprès pour vous rendre honteux, vous forcer à faire quelque chose que vous voulez pas vraiment faire, mais sinon vous vous sentiriez trop mal. Donc, voilà, il y a plusieurs noms intéressants. Je vous recommande plutôt d'aller lire l'article pour voir un peu ce que chacun est concrètement entre le confirm shaming, snacking, nagging. Il y a le Roach Motel Pattern, je me rappelle plus ce que c'est déjà celui-là.
Il y a plein de noms géniaux là. En fait, ça ressemble un peu aussi aux noms qu'on met pour décrire des comportements toxiques dans les réseaux sociaux et dans tous les trucs, les nouvelles tendances les sites de rencontres, des choses comme ça, les tendances rencontres 2024 et les mauvaises pratiques et les pratiques toxiques, c'est la même chose à la fin, c'est vraiment,
c'est ça,
tout va de la main et il y en a plein de noms comme ça, mais en gros c'est le genre, les trucs classiques de t'envoyer un email pour te dire bah attends, tu nous manques depuis longtemps, pourquoi tu reviens pas, ou ouais, le fait de te faire sentir,
ou alors,
que t'es,
Katia, t'attends, tu n'as toujours pas envoyé de message,
c'est ça. Oui, genre, attends, il y a une fête qui s'organise, t'as pas dit à toutes tes potes que tu viens sur Facebook l'event, alors qu'après tu y vas, il n'y a rien du tout, ou voilà, c'est toutes les choses comme ça. Et pareil, surtout, ce qui est hyper énervant en plus, c'est quand tu veux te désinscrire des newsletters ou quand tu veux te désinscrire de certaines choses et le wording est volontairement confus. Et du coup, tu sais pas, c'est un peu comme en français, c'est ce qui est cool. Par exemple, que tu dis, tu demandes, tu voudrais pas venir? Et si tu veux pas, tu dis, si tu veux venir, tu dis si. Mais si tu réponds oui, tu sais pas si t'es en train de oui quoi, tu veux pas venir ou oui que tu viens pas, tu vois?
Ah oui, je veux pas venir.
Entre le oui, entre le si et le oui. Mais en anglais, t'as pas ça. Dans notre langage, t'as pas ça. Et du coup, on te pose la question d'une manière que tu sais pas, que t'as juste oui, non, t'as pas si. Oui, ouais. Non. Et du coup, tu sais pas ce qui est en train de répondre.
T'as genre sélectionné les choses que vous voulez unsubscribe, ou alors est-ce que c'est subscribe? Du coup, tu sais pas si tu vas te réinscrire sur plus de trucs ou effectivement te désinscrire.
Tout est fait, tout est tourné d'une manière. Et en fait, ce qu'il faut se rappeler de ces genres de pratiques, et que oui, en effet, tu peux empêcher des gens de pas utiliser ton service pendant un moment, ou tu peux les empêcher de partir, mais ça va pas durer. C'est une stratégie vraiment court-termiste et qu'en plus va générer de l'inconfort et de sentiments négatifs chez les utilisateurs. Et sur le long terme, tel qu'on fonctionne, malheureusement, on se rappelle plus de sentiments négatifs et de souvenirs négatifs que de trucs positifs. Du coup, sur la longue, c'est une stratégie à perdre tes abonnés, tes utilisateurs. Donc, faites pas ça et regardez il faut pas faire ça et il faut qu'on regarde vraiment si on est en train de faire ces genres d'outils, ce genre, ou si quelqu'un nous propose ça. C'est une fausse bonne idée. Et donc, après, il y avait un article sur comment choisir tes couleurs pour la visualisation des données.
Ouais. C'était vraiment bien, ça. Je ne sais pas si vous avez été au bout, mais moi, je ne connaissais pas. En fait, il y a des couleurs. Moi, je suis toujours à dire, ah bah attends, j'ai quand les couleurs péchues, tu vois, à la Google, genre bleu pétant, rouge pétant. En fait, faut pas du tout faire ça. Et plutôt que penser en rouge, vert, bleu, la RGB, il faut plutôt penser en hue, qui est un peu la, je sais pas comment on dit en français, mais la couleur vaguement, la saturation et la brightness, donc la puissance de la.
La teinte, enfin, c'est globalement.
La teinte, voilà.
La teinte.
Et donc, il explique avec plein d'exemples, justement, comment améliorer certains choix de couleurs. Et il dit, ben, il faut mieux plutôt des couleurs complémentaires. Alors, il y a le fameux Larousse sur lequel on choisit les couleurs, mais en fait, des couleurs proches, c'est plutôt pas mal. Éviter les couleurs trop pures parce qu'elles sont saturées, brillantes, elles sont agressives, donc ça tend à stresser les gens. Faut avoir un bon contraste, donc là tu mets ta saturation à zéro, ce qui fait que tu le vois en gris, quoi, en gris et noir, et tu vois si les couleurs elles sont différentes. Et ça va aider les gens qui sont daltoniens de type, enfin, il y a différents types de daltonisme, et de pouvoir le voir avec des saturations, des brightness, voilà, différents. Ouais. Et donc ça, c'est vraiment intéressant de voir ça. Il y a un petit, c'est pas que de l'art, quoi. Il y a vraiment des petites règles qu'on peut ouais. Appliquer.
Ah non, c'est intéressant son article parce qu'elle explique vraiment les concepts et le pourquoi et le comment et l'impact que ça a. Je suis comme toi, hein, moi aussi, je mets des trucs pétants qui, en fait, veulent rien dire en général quand t'es daltonien, mon fils est daltonien, bah, des fois, il y a des trucs, tu dis, ah non, c'est la même couleur. Bah non, c'est pas la même couleur. Ah merde, fais chier. Bon, bah voilà, ça marche pas. Ouais. C'est des trucs cons, mais qui sont super importants quand vous faites des presses, pour ceux qui font des presses, quand vous faites des sites, si vous faites du web. Enfin, on a tous des besoins de présenter des choses. Et dès qu'on présente, bah, la couleur a un sens et la couleur a un impact. Et elle l'explique assez bien dans son article.
Ouais.
Enfin, c'est super cool, franchement.
Et ensuite, t'as trouvé un article qui justifiait pourquoi t'avais changé de boulot, c'est ça?
C'est ça, c'était pour me remotiver Donc c'est Charity Major, c'est Major son nom de famille, je crois, qui fait un article. En fait, donc c'est assez marrant parce que donc elle est plutôt SRI et elle remonte sur le fait que voilà, si elle reprend 10 ans en arrière, elle avait écrit plein d'articles sur quoi fallait pas être engineering manager, fallait pas viser ça, fallait rester dans la tech et tout ça. Donc elle reprend un peu le pourquoi, bah, finalement, beaucoup de choses ont changé ces dernières années pour plein de raisons. Le rôle d'engineering manager a changé lui-même. L'engineering aussi a changé. Déjà dans les gros changements. Alors après, je pense qu'elle reste avec une vue assez biaisée de je sais plus c'est quoi son éditeur chez qui elle est, mais quand même, donc une grosse boîte assez internationale, un peu comme vous au JBoss, ou même nous, ça s'y prête quand même aussi chez Doctolib, mais où effectivement la carrière n'est plus drivée par le fait qu'il faut devenir manager pour pouvoir progresser, parce que effectivement ça restait énormément le cas il y a encore il y a 10-15 ans. Enfin, moi je sais que les premières expériences de manager que j'ai eues, enfin de chef de projet, puisqu'en français c'est être chef de projet, effectivement c'était le seul moyen de monter dans les échelons. Il n'y avait rien côté tech, c'était une voie sans issue où effectivement tu pouvais pas évoluer que ce soit en salaire, que ce soit enfin quoi que ce soit. Donc il y a quand même eu un changement à ce niveau-là. On a vu se développer dans beaucoup d'entreprises des carrières pass, des chemins de carrière sur la tech, hein, donc avec des rôles, des rôles de staff, de c'est quoi toi, Manu, ton rôle, c'est quel niveau toi?
C'est l'équivalent de staff engineer, la distinguished engineer.
Distinguished engineer.
Ça, c'est
engineer.
Plutôt un niveau, mais staff engineer, c'est quelqu'un qui va aller travailler à travers les équipes,
c'est ça.
Sur la valeur globale pour la société, de dire, attends, en combinant, en alignant les canards de tel projet, voilà. Là, on va avoir un vrai impact plutôt qu'une optimisation locale.
Locale. C'est ça. Et donc, il y a des vraies opportunités maintenant, enfin, dans beaucoup d'entreprises, hein, je pense que voilà, elle parle en son nom, mais après, je pense que ça reste valable dans plein d'entreprises où maintenant, il y a la capacité de choisir et de donc ne pas faire un choix par défaut, c'est-à-dire, je vais faire du management juste pour être payé plus cher. Il y a eu aussi beaucoup de, c'est sûr que le rôle d'engineering manager est pas très simple. Pendant la période Covid, ça a été encore plus difficile parce qu'effectivement gérer des gens, c'est pas simple par nature. Gérer des gens quand il y a une pandémie, quand il y a des entreprises qui sont complètement perdues parce qu'elles doivent se restructurer, se réorganiser, elles doivent passer en remote, les gens n'ont jamais fait, etc. Donc, il y a eu quand même aussi beaucoup de gens qui se sont mis en question à l'époque, qui étaient devenus un peu managers par défaut et ou par dépit, et qui bon bah se disent ah non mais c'est super compliqué. Donc il y a eu beaucoup de changements liés à ça. Et après donc elle reprend un peu bah pourquoi le rôle d'engineering manager ça reste pourtant un rôle critique dans une entreprise, comme quoi c'est super important que bah si on a un bon manager, potentiellement on aura une équipe qui va performer, etc. Par contre, si on a un manager qui est plutôt pas bon mauvais, il y a de fortes choses, c'est quasiment garanti que là par contre il y aura que des résultats pourris et que les individus ne pourront pas sauver le bateau. Donc beaucoup de choses là-dessus, et surtout après, ce qui est intéressant, c'est qu'elle rebondit sur le fait que c'est avant tout ce rôle-là. Une manière de se développer personnellement, et c'est vrai que bon moi c'est pour ça que j'ai re-switché effectivement sur ce rôle-là parce que j'avais envie de rechanger et de pas faire que de la tech pure mais travailler bien sûr être responsable d'une équipe, enfin voir des équipes comme moi c'est effectivement gérer plein de la gestion humaine des personnes. Alors il y a des choses qui sont super cool, il y a des choses beaucoup moins cool hein, obligatoirement quand on gère les carrières des gens et quand on gère des personnes. Il y a bien sûr surtout un rapprochement du business, puisque quand on gère une activité, on va se rapprocher du business au global pour comprendre comment est-ce qu'on a de l'impact, pour potentiellement gérer des budgets, gérer toutes ces choses là donc il y a vraiment, on fait un shift complet sur le scope de compétences qu'on va utiliser. On va être super empathique, on va être très leader, il y a plein de choses qui vont changer. Et donc c'est là-dessus où je trouvais son article intéressant, c'était de remettre en perspective un peu le rôle de engineering manager aujourd'hui versus il y a des années, comment aujourd'hui ça se positionne, que c'est un choix qui est quelque chose qu'on peut faire, mais il faut le faire pour les bonnes raisons. Donc c'était là-dessus que j'avais trouvé ça assez intéressant.
Après, les côtés pour faire du développement personnel, j'ai trouvé ça génial quand même. Genre, je veux me développer, faire du développement personnel, donc je passe à générer une manager. c'est vraiment cool et c'est vraiment bien. Je dirais juste qu'en fait, c'est un rôle que se focalise avant tout sur l'humain, non? Et du coup, de ce fait, je crois que c'est les personnes qui sont vraiment avec cette envie,
c'est ça,
qui doivent y être et doivent y aller avant tout en fait, avant que se dire non mais en fait ça veut dire que c'est une vraie promotion ou que ça ou que c'est que je vais gagner plus, parce que sinon tout le monde va être déjà tu vas être malheureux en fait. Ouais. Tu vas être malheureux ça va devenir beaucoup plus compliqué pour l'entreprise et tout. Et donc moi je suis très très contente que justement on ait aujourd'hui au moins sur certaines boîtes la possibilité d'avoir une carrière d'individual contributor qu'on appelle, non, de
ouais,
voilà, et de engineering de plus de management manager. Et après d'autres en fait de manager parce que voilà c'est pas facile à dealer tous les jours avec des gens, et je pense que c'est beaucoup plus difficile ça que de dealer avec du code en vrai sur ta santé mentale et sur ton bien-être aussi, donc voilà. Ça me surprend que ça vient de Charity, parce qu'elle est tellement techos, elle a été tellement techos en mode ouais, et d'un coup tu dis ah ouais, on dirait que c'est ça, genre c'est la maturité, qu'est-ce qui s'est passé.
un point que j'avais bien aimé aussi dans l'article, c'est qu'elle mentionne aussi la question d'alignement, le fait de se dire que des fois, tu peux être techos et être dans une boîte, et même si t'y crois pas, même si t'es pas aligné sur la boîte, le machin, etc., tu peux faire ton job et ça peut se passer correctement. On va pas dire que c'est la fête, mais ça peut se passer. Par contre, elle le dit bien, si t'es engineering manager et que t'es pas du tout aligné avec la boîte, ce qu'elle fait, où elle va, etc., c'est mort, c'est même pas la peine d'essayer. Et donc ça, c'est aussi super intéressant. C'est voilà, ça met en perspective voilà les rôles. Il y a des, on a des besoins différents. Il y a vraiment des contraintes différentes. Et voilà. Donc, mais oui, c'était comme toi. Je me suis dit, bah, Charity qui parle de ça. Je me dis, non, elle, c'était la première. Effectivement, elle liste ses articles. Là, vous pourrez lire ses articles d'il y a 10 ans où c'était, mais ne faites surtout pas ça. N'allez pas dans le management, machin. Et donc, elle voulait essayer de faire un article pour dire finalement, bah, si vous le voulez, faites-le pour des bonnes raisons maintenant. Enfin, voilà.
D'accord. Alors, on va passer à la sécurité rapide. Il y en a une intéressante que j'ai vue qui sortait un peu du lot. C'est un truc qui s'appelle LogoFail. Et en gros, c'est une faille où, en gros, en mettant une image bien, enfin, bien modifiée comme il faut, là, vous savez, les images qu'on voit quand on démarre un PC avec le logo Dell ou le logo Energy Star, ou ce que vous voulez. Voilà, donc on prend cette image et donc il y a bien un logiciel qui interprète cette image. Et bon, bah, ce logiciel, il n'a pas vraiment été aussi exposé et protégé que, mettons, le logiciel d'Android qui lit les images et qui les interprète dans vos messages. Donc on a vu pas mal de failles de sécurité là-dessus. Bah, là, c'est le même type. Et du coup, en gros, on change les images qu'on voit au boot. Et donc, à ce moment-là, on a accès à ce qui est exécuté avant le système d'exploitation, donc vraiment au tout début. Et donc là, c'est game over, puisque en gros, on peut intégrer des choses qui vont mentir au système d'exploitation. Donc là, on
faut patcher le firmware, donc c'est le bordel. Enfin, à ce niveau-là, c'est...
Et puis, ça peut ne plus se voir, en fait. Ça devient vraiment difficile à détecter. Alors c'est pas une exploitation, l'exploitabilité n'est pas à distance, donc c'est pas une attaque à distance, mais donc il faut être sur les machines, il faut probablement avoir des droits assez élevés pour justement modifier le firmware qui va s'auto-updater machin. Mais bon, ça peut être à la fin d'une chaîne d'exploitation qui font une attaque remote, une élévation route, et ensuite hop, on installe ça qui va s'installer tranquillement au chaud dans le l'UEFI, là, donc le système de boot. Voilà, donc c'était intéressant. Et alors là, en général, pour avoir la mise à jour de votre carte mère pour avoir les protections de ça, c'est toujours un peu la croix et la
bannière. Ouais, tu peux, enfin si, après il faut mettre à jour ses BIOS, etc., mais c'est évident que oui, ça tombe moins souvent. Je sais pas si, il faudra que je vérifie si ça tombe sur le Windows de mon fils, voir si on a des mises à jour par Asus, etc., des firmware sur ce genre de truc. Je sais pas si ça dépend, pareil, de l'âge, comme d'hab. Enfin, ce genre de truc, effectivement, c'est pas mis à jour pendant très très longtemps, ça change tellement vite, les cartes mères et les machins, les drivers et tout, que ils font pas beaucoup d'efforts.
Alors, on a plein de confs, et là encore, on va vous laisser aller sur la liste des conférences pour lire tout ça. Mais juste avant, il y a eu un petit drame au niveau d'une conférence qui travaillait à la diversité. C'est ça, Katia?
Ouais, on adore les drames. On adore les dramas quand c'est drama et à nouveau IA. Ah, qu'est-ce qu'on aime. et diversité, parce que oui, en effet, apparemment, il y a des organisateurs dans la nature qui n'ont peut-être pas envie, en fait, de se faire accuser de la diversité de vos panels de speakers n'est pas au top, n'existe pas. Et du coup, l'intelligence artificielle peut, donc toi, organisateur de conférences qui veut peut-être se dire « je veux inviter tous mes copains et je veux faire un truc pour mes amis » et que tu as peur qu'on vienne te dire quelque chose sur Twitter, bah, tu peux générer des fausses speakers féminins ou des fausses speakers diverses. Ça peut être de tout type, de tout genre, grâce à l'intelligence artificielle. Donc, tu le mets là-dedans. Tu peux, si tu veux, peut-être créer des réseaux sociaux fake et tout. Et comme ça, personne va te t'embêter et tu seras tout tranquille. Sauf que, voilà, ça dure pas longtemps parce que il y a toujours des gens qui vont aller regarder et en fait tu vas te faire attraper et c'est ce qui s'est passé que justement il y a eu vraiment un pépin d'une conf qui a généré de fausses profils féminins dans ce cas-là pour dire que c'était des speakers femmes et en fait c'était fausse. Donc un peu triste et ça a fait que petit à petit ça a fait le mauvais buzz et la conférence a été même annulée parce qu'il a perdu les sponsorships. Il a
en cascade de sponsors, d'orateurs. Et du coup, il n'y avait plus personne pour faire la presse, quoi. Les presses.
Bah oui, bah, ce qui est. Oui, donc c'est ça. Si tu donc vaut mieux si on veut faire quelque chose vraiment entre copains, bon reste entre copains et on dit rien et on demande pas du sponsor et on reste entre amis et c'est très très bien. On peut le faire, hein, on est libre. Mais si on veut des sponsors et on veut faire quelque chose pour tout le monde et se vanter de faire quelque chose ouvert pour tout le monde, bah faisons sorte qu'on a un œil divers sur la diversité. Et je parle diversité au sens large, qu'on ne reste pas entre le même type de profil qu'on voit en permanence. Et je ne veux pas dire lequel. Et sinon, oui, bah, la liste des confs, juste un petit rappel, le Call for Papers de Devox, qui est encore ouvert.
Devox France ?
Oui, Devox France. Donc, il est encore ouvert, mais ne tarde pas trop. Parce que le rush de janvier va arriver et si tu tardes pas beaucoup à réfléchir, peut-être qu'après ça sera trop tard. Donc je le dis dès maintenant parce que c'est dans un mois qu'il va fermer le aujourd'hui on enregistre. T'écoutes ce podcast, bah bientôt ça ferme en fait. Donc voilà, fais-le à zap et puis et nous on va avoir beaucoup de travail avec Arnaud. Pour tout reviewer. Et puis, je sais pas, et après, il y a plein de confs qui vont arriver très vite. Donc, Snow Camp, par exemple, le 31 janvier.
Ouais, le CFP est fermé, mais Snow Camp, c'est oui. Début janvier, fin janvier, pardon, à Grenoble. Des choses sur l'agilité au Mans, 1er février, Agile Le Mans, DevFest Paris en début février aussi.
Je vois pas le Vox Day CERN que je vois pas dans la liste, mais qui arrive aussi en janvier. Donc,
Ah ouais, ok. Il doit être plein déjà, lui, non? En général,
il est plein. C'est ce que je sais pas, effectivement. Peut-être qu'il est plein, ouais, je sais pas. Parce qu'il. Ça va vite, très vite.
Ah, c'est marrant, des Vox France et des Vox Grèce, c'est en même temps.
Oui, cette année, ça tombe sur les mêmes créneaux. Ah, cette fois, on n'a pas Mixit en face pour une fois. Alors, déjà, c'est déjà ça.
Ah ouais,
on n'aura pas. Fait... On n'aura pas parachuté les speakers de l'un à l'autre, mais par contre, on va certainement échanger avec la Grèce. Ouais.
Yes. Non, mais on vous laisse regarder, parce que sinon, ça fait une liste un peu à la première. Ouais,
c'est ça.
D'ailleurs, le 19 mars, faut choisir sa conf, hein, y en a genre 20.
Il y a plein de confs le 19 mars.
À Paris, donc peut-être, s'il n'y a pas de grève, tu peux en faire la moitié.
C'est ça.
Voilà, j'espère que ça vous a plu. On vous souhaite de bonnes, un bon break de fin d'année. Retour à l'année prochaine avec plein d'énergie. Et puis n'oubliez pas de nous faire un petit, une petite aide. Vous allez sur lescascodeurs.com et vous regardez le petit formulaire de. Oui, vous, oui, ça c'est autre chose. Vous allez sur le petit formulaire de retour pour savoir ce que vous aimez, que vous aimeriez encore plus dans les Cascodeurs en 2024. Ensuite, parlez-en à vos copines, copains, idéalement s'ils sont dans la tech, parce que ça sera plus pratique, plus intéressant pour eux d'écouter le podcast là-dessus. Donc, voilà, parrainez le podcast à vos équipes, par exemple. Et puis, l'envie vous... si l'envie vous... Ça va qu'on n'ait pas un podcast vidéo, parce qu'Arnaud, il fait des choses... Voilà, si ça vous motive, vous pouvez aussi aller sur patreon.com/lescascodeurs pour mettre la main au pot et nous faire une petite contribution pour les cascodeurs, pour les frais divers et variés qu'on peut avoir. En attendant qu'on soit remplacé par l'intelligence artificielle qui va coûter encore plus cher que nous, parce que on n'est pas payé en fait.
Voilà. C'est ça. Mais on aimerait bien qu'elle fasse tout pour nous, hein, qu'elle prépare les épisodes, qu'elle les enregistre.
Accélérer des tâches, automatiser certaines tâches, ça nous aiderait.
Le montage, ça serait bien qu'elle pouvait nous tout faire pour nous. Ça serait sympa aussi.
Yes.
Ouais.
Voilà. En tout cas, voilà. Donc vous avez quoi? Trois actions. Parler des cascodeurs. Dites-nous ce que vous aimeriez encore plus des cascodeurs et donner de l'argent aux cascodeurs. Et voilà. Et avec
et
ça.
Bonne année.
Et avec ça, vous aurez une année 2024. Promis, elle sera top.
Voilà, c'est non, ça. C'est ça. Le Père Noël va être super sympa avec plein de cadeaux le 25, c'est promis.
C'est C'est ça. Ils Attention, si tu fais mal formulaire, le Père Noël, il vient pas.
Hein. Il vient pas du tout. Là, c'est clair qu'il ne viendra pas, non. Nana. Donc, c'était cool, en fait. Merci beaucoup.
Allez, à la prochaine.
Ciao, ciao.
Ciao.
Le thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcastthème.com, podcastthemes.com. Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express, www.touilleur-express.fr.